pour les fêtes, je vous emmène à la poursuite du Père Noël. En plus, on l'a trouvé. Bonjour Patrick Timsit.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, d'être sur Radio Lac. C'est vous qui campez le Père Noël dans ce film familial. On va prendre le temps d'en parler. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment ça s'est fait. À quel moment on dit, tiens, j'ai pensé à vous Patrick pour le rôle du Père Noël.
Eh bien, on m'envoie un scénario. Parce que sans histoire, sans scénar, j'ai jamais fait un film pour jouer un rôle. J'avais pas même mon propre film. Si, je l'ai fait pour Quasimodo parce que je pensais que jouer un monstre, c'était vachement bien dans la carrière d'un acteur. Et en fait, c'était un monstre qui souffrait pas. Donc, il y avait pas une grande performance. Et c'est ça que je voulais dire. Le film dit ça. Dit, on est monstrueux que dans le regard des autres, en fait. Vous êtes le plus beau bébé du monde avec votre maman. Et puis, vous êtes choyé, aimé. Et puis, un jour, vous sortez. Et les gens peuvent vous montrer du doigt, se moquer de vous, etc.
On se confronte à une forme de réalité.
Voilà, donc j'ai pas voulu jouer un Père Noël. Et j'ai lu le Père Noël, il y a une vraie histoire, avec du fond aussi, mais la légèreté. Je me suis dit, ah waouh, un film de Noël, c'est quand même un rendez-vous. Quoi. Et après, j'ai rencontré James Huth, le réalisateur. Et James Huth, c'est Brice Denis, c'est Lucky Luke. Enthousiaste, un vrai regard. Je sentais une qualité de récit, et donc une qualité quand il a réalisé ce film. C'est vraiment gai, joyeux, mais c'est... Et pourtant, c'est pas un film à gros, énorme budget, mais il fait gros, énorme budget.
Mais alors, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que c'est un film dans lequel, et moi, c'est ce que j'aime bien dans les films de James Huth, ils sont très marqués. C'est-à-dire qu'on va avoir des décors où on a vraiment le sentiment d'être dans ce village de Père Noël. On a l'impression qu'il a travaillé toute l'année pour faire les cadeaux. Cette biscuiterie aussi, on va évidemment en parler. Enfin, il y a ce côté un peu Roald Dahl. Moi, ça m'a fait penser à l'univers de Charlie et la chocolaterie et compagnie.
Oui, forcément. Forcément, parce que ce côté féerique, il choisit ses décors. On y est déjà. Après, c'est accentué par ses lumières, par les lumières, le chef-op, le cadrage. Cette façon d'avoir toujours un ton pour raconter les choses. J'aime pas dire BD, parce que c'est la BD ou le dessin animé, c'est le dessin animé. Pour avoir fait des voix dans des films, le Gang des requins, Hercule, aussi Azur et Asmar ou le Chasseur de dragons, on joue pas de la même façon, on est exubérant et tout ça, là on n'est pas dans le burlesque, on est vraiment dans la vraie vie. C'est pour ça qu'il y a des sentiments, c'est pour ça qu'en dehors de ce plaisir qu'on a, parce que là je l'ai vu en projection, jamais je parle comme ça de films dans lesquels je suis, hein. Moi c'est pas... Il n'y a pas de promo, hein. Il y a à parler d'un film qu'on aime. Et c'est vrai qu'il y a ce ton féerique, comme dans Charlie et la chocolaterie. Et vraiment, je n'ai pas honte de dire que c'est vraiment de ce calibre. Lui, il ne pourra pas le dire, mais moi, je peux le dire parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et il y a un film au rendez-vous qui raconte une histoire. Ce n'est pas... des effets, c'est pas une image particulière, une originalité qui se veut très technique et tout. Non, ça raconte une histoire qui vous embarque.
C'est drainé par une histoire et on a vraiment besoin en ce moment de jolis films pour la fin d'année. Je vous allais regarder un peu les commentaires sous la bande-annonce. On n'a que la bande-annonce pour l'instant, personne n'a vu le film, ou alors quelques projections, moi évidemment je l'ai vu. Ouais. Je vais vous lire un commentaire, puis une réponse. En France, il est tout aussi urgent de changer de cinéma que de président, on ne touche pas le fond, on l'a dépassé. Quelqu'un répond, c'est un film pour les enfants, vous n'êtes pas un enfant, vous êtes con. Voilà, on parle d'une bande-annonce, d'une comédie familiale de Noël.
Ouais, ouais.
Donc il y en a vraiment besoin.
Oui, il y en a vraiment besoin. Et puis de toute façon, je vais vous dire, moi, il y a un truc que je ne fais pas, c'est lire les commentaires. Ouais, non, mais vraiment.
Ah bah
c'est les commentaires, c'est souvent des gens qui ont du temps. Mais depuis tout le temps, hein, depuis même en radio, si vous mettez à lire les commentaires sur votre émission, je peux vous dire que vous n'aurez pas le même sourire.
On a dit qu'il fallait me mettre en procès pour crime contre l'humanité une fois.
Donc, voilà, vous voyez. Donc,
à l'époque du Covid.
Mais franchement, on s'en fout. Mais vraiment, je m'en fous. Je me fous de la réponse, en plus, qui n'est pas juste. Donc même la réponse de celui qui défend le film, ce n'est pas un film pour les enfants. C'est un film familial. Et pour l'avoir projeté au Max Linder, je peux vous dire que c'est un film à voir au cinéma parce qu'on y gagne. Ouais. Et que les adultes étaient heureux de ce film en disant que c'était vraiment le film de Noël, comme on aime les voir aussi. Et bien sûr, heureusement, il plaît aux enfants, parce que les enfants, ça ment pas. On ne peut pas dire, c'est un ami de papa, faut rire ou faut être heureux. Hein. Donc, c'est formidable. Et donc, Même celui qui répond est à côté de la plaque.
Donc allez le voir ce film, vous basez pas sur une vidéo de 2 minutes. Ben en plus elle est très chouette cette bande-annonce, il y a plein d'ellipses. Enfin, évidemment. On va pas s'arrêter à la bande-annonce, on va évidemment parler donc de ce film. Vous jouez le Père Noël, mais alors ce que j'ai trouvé différent, c'est que vous jouez, on va pas tout divulguer, mais vous jouez le Père Noël.
Alors non, vous voyez, c'est ça qui est fantastique. Je joue un Père Noël.
Exact.
Je joue un Père Noël de Parc Enchanté.
Et qui fait apparaître des cadeaux quand même, il a un petit plus. Hein.
Parce que ça, c'est la magie du spectacle, et donc amplifiée par la magie du cinéma. Mais ce Père Noël, on le voit bien, il est dans un parc enchanté, il fait des photos avec les mômes.
Tous les jours à 17h.
Comme il y en a partout. Et les enfants continuent de croire au Père Noël parce qu'ils savent que tous ces Pères Noël travaillent pour le Père Noël, peut-être. Et que Luigi est peut-être un chouchou du Père Noël. Hein. Il est le bras droit du Père Noël, peut-être. Et c'est ça qui est formidable. C'est qu'à un moment, il lui dit « Je ne suis pas le Père Noël ». Et il lui dit « C'est ce que je dirais si j'étais le Père Noël dans ta situation. » Et vraiment, elle est en équipe avec ce Père Noël pour se venger d'un petit garçon qui l'embête à l'école. Et elle avait fait cette commande de Sarbacane. Et mon Père Noël lui dit, écoute, c'est pas avec une arme qu'on règle les choses. Le Sarbacane, même si c'est air comprimé, boule de chewing-gum. Non, tu vas, t'es maligne, t'es intelligente. Ça, c'est tes armes. Et tu vas ridiculiser ton adversaire. Et ça, vraiment, c'est ce qui va payer et ça paye.
La petite Zoé campée par Théa, je ne sais pas si on dit Bock ou Boek.
Alors, oui, vous lui demanderez.
Alors, la petite Théa...
Moi, j'ai toujours dit Bock, mais...
La petite Théa qui campe Zoé, du haut de ses 9 ans, faut quand même arriver à jouer face à Patrick Timsit, face à Isabelle Nanty, vous êtes quand même des piliers de l'humour. Il faut le tenir, ce crachoir quand on a 9 ans. Et je trouve qu'il y a un vrai ping-pong, il y a un vrai jeu d'actrice.
Et ben, c'est une actrice et elle ne joue pas face, elle joue avec. Vous voyez, ouais. Donc c'est vraiment ça, les enfants, si c'est face, ils ne prennent pas de plaisir. Ils ne prennent pas de plaisir, il n'y a rien qui sort. Moi, j'ai joué avec des enfants, je me suis amusé avec eux, mais j'ai travaillé avec eux. Moi, j'ai un enfant, c'est comme si je ne fais pas de différence entre Isabelle Nanty et un enfant. C'est juste ou c'est pas juste. Et si dans leur regard, je sens que c'est moi qui ne suis pas juste, je vais faire en sorte de progresser ou de ne pas le mettre mal à l'aise et de le mettre à l'aise, justement, c'est-à-dire en étant vrai. Ce que j'ai peut-être, j'espère, ce que je me souhaite, c'est de ne pas jouer. C'est d'être, c'est de vivre, c'est d'être comme ils sont, à fond, à fond, à fond.
Vous avez quand même une carrière que je trouve intéressante, qui a toujours été via l'humour. Alors je suis désolé, ça ne va pas vous rajeunir, mais moi j'ai grandi, je connais encore par cœur le sketch Koumak, les vacances.
Ouais.
J'ai grandi avec vos sketchs.
Ça me fait plaisir.
Puis des pièces dramatiques, des rôles dans tous les sens. Vous l'avez dit vous-même, vous aviez... voulu faire votre film pour aussi avoir un rôle un peu particulier et faire ressentir des émotions un peu particulières. C'est une carrière, j'ai l'impression, qui ne se fait que de choix sur le moment.
Exactement, c'est des choix sur le moment. Il n'y a pas de plan de carrière. Ce n'est pas genre je vais faire un drame parce que j'ai fait trop de comédie ou une comédie, ça me ferait du bien.
Je vais faire mon Ciao Pantin. Tac.
Voilà, exactement. C'est le plaisir, l'envie de faire partie de cette aventure. C'est drôle parce que là, après, j'ai fait un film avec les Eric Fraticelli, l'équipe des Corses, comme on va dire, le clan, et qui va sortir là en mars. Mais j'avais fait aussi, j'ai fait sur Disney+, Les Disparus de la Gare, qui est un film, qui est une série noire, une mini-série. Et après, j'ai enchaîné sur Stendhal, Le Rouge et le Noir. Vous voyez, Gaël Morel, à la réalisation, qui sont des films d'auteur. J'avais fait sur Netflix Jean-Claude Van Damme, 5 films plus tard. Pendant le confinement, je tourne 5 films. Et je finis par Arnaud Desplechin, La Montée des Marches, vous voyez, à Cannes. Donc, je vais là où d'abord on me fait confiance, où les réalisateurs pensent à moi. Je lis les scénars, comme on se l'est dit. Et une fois que j'ai lu le scénar, je dis, c'est sûr, tu veux que je fasse. C'est ta responsabilité. Si tu me vois dans ce film, alors je le fais.
Il y a un acteur qui s'appelle Jason Alexander, qui est très connu pour avoir joué George Costanza pendant 9 ans dans Seinfeld, qui est la sitcom la plus connue aux États-Unis.
Oui.
C'est cette phrase célèbre, l'humour, c'est du sérieux. C'est-à-dire qu'on bosse, on vient, on connaît ses textes, on connaît ses effets, etc. On ne vient pas faire des blagues. Vous partagez ce sentiment ?
Ah mais complètement, complètement. C'est vraiment ma façon de travailler. Mais maintenant... dire ça au public, moi j'ai plutôt envie de dire que quand c'est réussi, il faut que ça paraisse facile. Donc je ne vais pas leur rappeler à quel point c'est difficile et à quel point les acteurs travaillent et que tout ça est très sérieux.
Pour
donc,
faire croire qu'ils jouent des gens normaux, etc., etc.
Voilà, je suis d'accord avec lui dans l'intimité. Maintenant, aller dire qu'on a eu beaucoup de problèmes parce qu'on était à Tahiti pendant 3 mois et qu'il y avait des nuages, est-ce que les gens dans leur vie du quotidien vont partager ça? Je suis pas sûr, puis j'en ai pas envie. Mais c'est vrai, je me suis jamais aussi peu marré que pendant Quasimodo avec le Père Noël. C'est des heures et des heures de maquillage aussi, puis la chaleur, le machin, mais on s'en fout. C'est vrai que le texte doit être au carré, et pour avoir aussi écrit des films comme Pédale Douce, comme Paparazzi, comme bien sûr que c'est écrit, on a envie. Et puis moi j'étais à l'école de Colin Serrault, la crise, où vraiment c'est une musique, la comédie, pim pam pam, il n'y a pas que... Il y a une musique pour que cette phrase fasse rire, avec l'émotion, qu'elle soit vécue et tout ça, et d'autres musiques pour qu'elle dise quelque chose.
Alors, je rebondis quand même sur ce que vous dites, La Crise, Pédale Douce, qui sont des films et ancrés dans leurs époques, au pluriel, et qui ont quand même fait avancer le schmilblick. Pédale Douce, moi j'ai le sentiment que sur la reconnaissance de certaines personnes, il y a eu un avant et un après.
Ben, c'est ce qui m'a bouleversé. Hein. Quand j'ai des ados ou des jeunes, des moins jeunes aussi, qui me disent que Pédale Douce, c'est effectivement c'est un témoignage d'une époque, les années 90, et puis la différence, un film sur la double vie aussi, les apparences. Et puis après, j'ai fait un film Baiser caché sur le coming out homosexuel chez des ados, où le film a été piraté positivement, puisque c'était pour le traduire comme il pouvait dans des langues, que ce soit du brésilien ou que ce soit du russe. Et vous êtes en pleine période où la Tchétchénie condamne à mort les homosexuels et tout. Oui, c'est vraiment... Alors quand c'est la comédie, c'est fantastique parce que vous prenez ça, moi-même, je me prends ça en plein visage. J'ai les poils qui se redressent quand je vois ce gamin qui vient voir. J'ai été voir Pédale Douce avec des amis. Ah oui, très bien. Ça va ? Oui, parce que je voulais vous dire qu'à la fin du film, j'ai pu leur dire que j'étais homosexuel. Ouais. Ah oui, et ben, on a été faire la fête. Voilà, où j'ai après baisé caché. Un monsieur qui est là, très sérieux, comme ça, très sévère. C'était pour voir si je pouvais avoir un parking. Il était propriétaire du parking, il louait son parking. Puis je vois qu'il y a quand même un petit apéro de servi et tout ça. Bon, donc je vais être un petit peu attendu. Il y a sa femme, une femme comme ça, très costaud, un peu sérieuse, et puis 3 enfants. Bon, et après, il m'avait paru déjà très, très sympathique en me disant attention aux apparences, là encore. Parce qu'il était très sérieux, mais il avait quand même adopté 2 enfants, 2 Péruviens. Donc là, déjà, vous dites, il y a du bon là-dessous. C'est pas, je veux pas être là, vous savez, le bon esprit, c'est bien d'adopter. Non, mais simplement, tiens, c'est surprenant. Quand même.
Vous estimez que c'est une preuve d'esprit.
C'est pas une preuve, mais c'est déjà une preuve qu'il ne faut pas en rester au côté sévère, mais que lui a une particularité. Voilà. Et là, quand il dit, vous buvez pas de champagne, j'ai dit, non, ce que je veux pas. Non, vous aimez pas de champagne, vous. Je vais vous chercher une bouteille de vin. Bon, si vous voulez, c'est très gentil. Il va chercher une bouteille de vin. Dès qu'il est parti à la cave pour chercher la bouteille de vin, la femme se lève, ouvre un mensuel, quoi, un magazine, et à l'intérieur, il y a 3 affiches prises sur Internet. Il n'y avait pas l'affiche. C'était un téléfilm de Baiser caché. Et elle me dit, voilà, c'est pour mon fils. Il n'est pas au courant. Et
oh,
là, le fils était là, assis. Et vraiment, j'étais comme ça. J'ai signé. Ça, c'est pour son copain. J'ai signé. Puis ça, c'est pour ma fille. Voilà. Et il referme. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Comme dans un mauvais boulevard. Oui. Ou dans un boulevard tout
ciel,
court.
Mon mari. Il est de retour
qu'est-ce
avec
qu'est-ce
le
qu'est-ce qui se passe ici? Ouh, il y a des choses comme ça dans mon dos, là. À mon avis, ouais. Il va être ultra au courant. Et je viens de me refiler les frissons.
Ouais, non, mais ce sont des moments incroyables.
Donc évidemment, oui, quand Paparazzi, on l'avait. Voilà, la crise, n'en parlons pas encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les 2 sens, parce que une scène extraite d'un film peut faire dire le contraire que le film a voulu dire. Et c'est pour ça que Colline Serrault a été très vigilante à la sortie du film pour ne pas avoir d'extrait, et notamment la tirade de Michou sur le racisme. Voilà, ben c'est les gars de Saint-Denis qui se poussent, mais on oublie que justement Michou se trompait dans sa façon de s'exprimer.
Oui, il y a un contexte.
Puisqu'il a été élevé lui-même par une musulmane, et qu'il la considère comme sa mère et elle comme son fils. Bon, bref.
Finalement, pour faire aussi le pont avec ce film dont on parle aujourd'hui, il y a ce côté de la famille, l'importance de faire famille, qu'elle soit choisie ou non d'ailleurs. C'est quoi pour vous la famille ?
Ben, la famille, c'est drôle que vous passiez. Est-ce que vous êtes au courant que je joue une pièce qui s'appelle La famille ?
Et notamment au moment où on est en train de se parler, vous l'avez joué il n'y a pas très longtemps, il y a quelques heures.
Exactement. La famille de Samuel Benchetrit. Et c'est ce rendez-vous FX de maison à quelque chose qui est mon petit frère, quelque chose d'important à me demander. Et vraiment, ça va être le moment de régler des comptes. La famille, c'est extrêmement important pour moi. Vous avez vu quand maman appelle ma mère, je suis obligé de mettre le portable dans la poche.
Je précise pour les gens qui nous écoutent, juste avant l'interview, vous avez essayé de joindre votre maman qui essayait de vous rappeler. Donc évidemment, c'est normal, on prend quelques minutes.
Du coup de fil en moins d'une demi-heure, rien d'anormal, tout à fait logique.
Petite habitude. Je vous disais, on a la même, donc ça va.
Voilà. Mais, on a la même. Mais et c'est... tant mieux pour vous et tant mieux pour moi. De temps en temps, on est à cran quand même et un peu nerveux. Mais on se dit, ah, c'est bien qu'elle soit là.
C'est la transmission aussi ?
C'est la transmission. Je fais le livre de ma mère, d'Albert Cohen. Je suis resté 3 ans comme ça sur scène. Je continue de le jouer. Là, je vais jouer au MUCEM à Marseille, au musée. C'est extraordinaire. Avignon, dans le festival IN, France Culture, à l'Opéra Comique pour le SAMU Social. Enfin, ce sont des rendez-vous, la transmission aussi de... Par exemple, le livre de ma mère, c'est profiter de vos mères quand elles sont vivantes, quoi. Puisque quand il dit fils de mères encore vivantes, n'oubliez pas que vos mères sont mortelles. Et moi qui fais ce spectacle depuis plus de 3 ans, j'arrive pas à me dire qu'un jour elle sera pas là. Et c'est dingue. Et la transmission, c'est aussi quand on a la chance, mais sinon, on transpose. On n'a pas forcément tous la même mère. Ça serait vraiment utopique, ça serait vraiment même à côté de la plaque, je dirais, de dire. Mais on transpose. On a une grand-mère, on a un oncle, on a un ami, on a une sœur qui peut... on a besoin de cette protection. Ben, sinon, on est perdu. Sinon, c'est pour ça aussi que avec l'association du refuge, où tout d'un coup, quand vous n'avez plus de famille, que vous êtes homosexuel et qu'on vous met dehors de votre propre famille... Et ben, l'association, le refuge, vous dites, waouh, c'est vraiment une dernière petite branche, parce que tout ça n'est pas bien solide, hein. Il faut que vous vous accrochez où vous pouvez. Quand on ne vous conseille pas de vous pendre avec, pardon d'être si sombre et si noir.
Dites que vous avez.
Mais c'est très important, Tchétchénie. Il disait, faites-le vous-même et donnez la corde à la famille pour pas qu'eux aient à le faire. Sinon, on le fait. Alors, waouh, vive la gaieté. Vive ce côté, ce film qui va nous sortir de ça, qui va donner des couleurs, qui va nous faire rire et en même temps tout le monde y va de sa petite larme. Et c'est fantastique.
Et j'ai le sentiment, puisqu'on revient donc à ce Pernel, ce vrai film familial, mais je le redis, et je vous rejoins, il faut le voir au cinéma, parce qu'il y a des couleurs, il y a des effets, c'est tout bête, mais il y a des bruitages qui fonctionnent extrêmement bien dans une grande salle. Clin d'œil aux cheveux, pas les vôtres. Je trouve que c'est aussi un style de comédie qu'on a très longtemps eu avec les États-Unis. Les comédies, on acte, le Père Noël est là, vrai ou pas vrai, etc., etc. Ça manquait dans la comédie francophone. On était habitué à voir des personnages un peu racistes au début, moins racistes à la fin. Je citerai aucun acteur qui joue ça. Mais ça manquait d'avoir ces choses très grand public, très rassembleurs.
Écoutez, on ne fait pas un film parce qu'il manque quelque chose. Je crois que... Et puis en plus, là, finalement, c'est un genre. Donc s'il existe aux États-Unis, bah, c'est qu'on n'a rien inventé. Vraiment,
je veux dire que ça fait du bien.
Ça fait du bien, oui. On rentre dans un genre et on a une mission à accomplir. Comme quand tout d'un coup vous êtes en stand-up, je suis sur scène, je fais du one-man show, je fais des sketchs, ça doit faire rire. Alors, si c'est pour dire « regardez comme je suis intelligent », ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si le départ de mon sketch, c'est la colère, c'est quelque chose que je ne veux plus entendre, c'est du racisme, c'est sur les vieux, c'est sur les femmes, le sexisme, Oui, mais rire. Rendez-vous avec le rire. Et là, c'est rendez-vous avec le plaisir, le bonheur. De... Wow, si on quittait la Terre, allez, une heure et demie, on s'évade. Et c'est ça, c'est un peu comme si on léchait les vitrines des grands magasins.
Mais c'est très bien dit. C'est très bien dit parce que ça part quand même d'un cadeau que cette petite Zoé ne reçoit pas. Elle veut se venger de son ennemi à l'école qui, pas de bol, est le fils de l'employeur de sa mère, qui est la biscuiterie du coin. Et donc pour ça, elle a évidemment besoin du Père Noël. Et c'est le Père Noël qui va devoir lui dire finalement, la solution, elle est peut-être un peu en toi. Je spoil un peu la fin, mais bon, c'est pas le plus important dans le film.
Oui, c'est très bien. Il n'y a rien à spoiler parce que c'est vrai, vous avez raison.
C'est le magicien d'Oz, c'est la même morale.
Oui, absolument. Et vraiment, ils ont le même ennemi. Hein. Ce gars-là, là, ce Luigi Père Noël, il s'est fait voler la recette par cette famille de biscuiterie, les Gélas-là.
Ouais. Avec ou sans S, c'est ça.
Voilà, elle se bat, on ne prononce pas le S, il est muet. Mais sont des méchants, et à deux, on est plus fort. Et puis aussi, de dire à cette petite fille, si tu as des problèmes avec ce petit garçon, parle-en à ta maman. Elle ne peut pas en parler parce qu'elle travaille justement. Et elle a peur que sa maman perde son travail parce qu'elle travaille à la biscuiterie. C'est vachement bien ficelé. On est en haleine. Hein. On saute. Vous avez sursauté à des moments. C'est pour ça qu'il faut le voir au cinéma.
La porte.
Au cinéma. Waouh !
Je ne dis pas quoi, mais la porte.
Ah oui, la porte. Voilà. Oui. La porte et puis les cadeaux quand ils...
Ah ça, oui, oui. Je n'avais pas vu venir. Voilà, le coup des cadeaux, voilà. La cheminée, je ne l'avais pas vu venir.
Voilà, donc il y a des moments où on sursaute. Moi, j'ai été le voir en public. Je croyais qu'à la première phrase de moi, j'allais sortir. Je ne me supporte pas, je vois très peu mes films, voire pas. Il y a des films que je n'ai toujours pas vus.
Vous êtes bon acteur, sachez-le, Patrick Timsit.
Merci, c'est gentil.
Au cas où il fallait une reconnaissance.
C'est gentil. Mon fils me dit, tes meilleurs rôles sont encore devant, papa. Donc je suis encore là en train de me dire, waouh, et demain. Aujourd'hui, je le croque, je le vis, c'est fantastique, hein, cette période est magnifique pour moi, de tel plaisir. Et puis, cette période de 30 ans ou 35 ans de plaisir, je la croque, oui, en espérant que je n'en oublie pas ma famille, mes valeurs et la dignité humaine.
Et un retour sur scène, un jour en solo ?
Retour sur scène après avoir dit adieu, ça ne m'empêchera pas de revenir, mais je n'y pense pas pour le moment. Je suis persuadé que j'ai fait des adieux, des beaux adieux, et que j'étais sincère en disant quand il y a eu 35 ans de succès, ouais, de complet, de rendez-vous avec un public qui m'a suivi, qui me suit, je me dis, waouh, je pourrais très bien revenir en disant je m'a trompé, hein, oups, m'a trompé, mais...
Vous votre côté Michel
moi,
Sardou.
C'est quoi ce bordel quand je ne suis pas là? Il y a plein de choses en une phrase, c'est réglé, j'ai le droit de revenir. Mais, vraiment, je me régale. Je me régale pendant, quand j'étais dans les One Man Show et dans le cinéma et tout ça. Et là, je me régale de ce moment, donc j'y pense pas.
Je pense que c'est ma dernière question, mais j'ai l'impression que vous avez... Et c'est positif. Vous avez évolué. J'ai l'impression qu'il y a une mutation de Patrick Timsit entre cette fin des années 90, début 2000 et aujourd'hui.
Ben écoutez, moi, les gens disent toujours « il ne faut pas changer ». Alors, il ne faut pas changer. Il y a un caractère, il y a une humanité, il y a ce que vous êtes, votre personne, et non pas personnage. Votre personne, elle est ce qu'elle a. Là, celle-là, moi, elle ne peut pas changer. Je suis ça, c'est moi. Mais évoluer. Évoluer, quoi. Je ne suis pas dans la nostalgie, je n'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu. Je ne regrette pas ce que je n'ai pas vécu. Je suis dans le moment, donc... C'est pour avoir l'impression d'en avoir vécu 10 pendant. Vous savez, on vous promet peut-être 7 vies après. Moi, je dis, je vais en prendre 7 pendant. Comme ça, si les 7 vies d'après existent, 7 fois 7, 49.
C'est pas mal.
Ça serait pas mal.
C'est pas mal, ça semble rempli.
Donc, c'est vrai que je ne vais pas m'empêcher d'être... Je suis, je n'ai pas changé. Je suis dans le vrai. J'ai changé, j'ai évolué.
Patrick Timsit, donc, allez le trouver, ce Père Noël. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre, parce que je vais être franc, les gens qui nous écoutent ne le savent pas, mais vous n'êtes pas du tout en promo pour ce film. Et non. Moi, on m'a dit, il est d'accord de faire un journal, une télé, une radio, parce que c'est un film qu'il aime.
Vous avez tout résumé, je n'ai rien à rajouter. Je viens parler d'un film que j'aime, je ne viens pas faire de la promo.
Merci Patrick Timsit.
Merci beaucoup.